France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par ces nouvelles violences au Soudan. Les manifestations durent depuis un mois maintenant contre le régime du président Omar el-Béchir et la hausse des prix dans le pays. Hier, deux personnes, un médecin et un enfant, ont été tuées lors d'un rassemblement réprimé violemment par la police. Les ONG évoquent une quarantaine de morts au total depuis la mi-décembre. En République démocratique du Congo, ce serait au moins 890 personnes qui ont été tuées le mois dernier, chiffre donné par l'ONU, des morts lors d'affrontements interethnique dans le centre du pays. Le gouverneur de la région proche du président Joseph Kabila est accusé d'avoir instrumentalisé ce conflit et d'avoir armé surtout certains villageois à quelques jours des élections. À propos de l'élection présidentielle, d'ailleurs, l'Union africaine demande la suspension de la proclamation définitive des résultats. Ils sont attendus normalement ce vendredi. Paralysie budgétaire oblige, Donald Trump annule le déplacement de toute la délégation américaine au forum de Davos. Il est prévu la semaine prochaine. Il s'agit du Forum économique mondial. Grand débat national, acte 2 pour Emmanuel Macron en France. Le président de la République se rend aujourd'hui à Souillac, une commune paisible du Lot qui tente de renaître loin des grandes villes. Face cette fois à 600 maires d'Occitanie, le président écoutera là encore leur remontée de terrain à partir de 15h cet après-midi. Et ce grand débat a, ça y est, ses 5 garants, ses 5 nouveaux organisateurs. Matignon a choisi l'ancien patron de la RATP et de la Poste, Jean-Paul Bailly, ainsi que l'actuelle présidente de la Commission nationale de l'information et des libertés, la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin. Le politologue Pascal Perrineau a lui été désigné par le Sénat, quand l'Assemblée nationale a choisi de son côté Guy Canivet, ancien membre du Conseil constitutionnel. Enfin, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, a désigné Nadia Bellaoui, secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement. Et puis pendant ce temps, Alexandre Benalla, qui fait trembler le pouvoir, est de nouveau placé en garde à vue depuis hier. L'ancien chargé de mission à l'Élysée est auditionné dans le cadre de l'enquête sur l'usage de ses passeports diplomatiques.
La plus célèbre des houppettes fête ses 90 ans. Née en 1929 sous le crayon d'Hergé, Tintin et Milou ont ravi des générations de lecteurs.
La momie.
Elle a disparu. Évaporée à Ascarcapac. Volatilisé.
France Culture, la Comédie Française, Moulinsart et l'Orchestre National de France vous invitent à suivre et à podcaster trois aventures du célèbre reporter.
Je vais vous couper la tête.
Les cigares du pharaon, le lotus bleu et les 7 boules de cristal. Un dossier spécial, les aventures de Tintin.
Et je dirais même plus, un podcast exceptionnel à retrouver sur franceculture.fr.
Monsieur Tintin, quelle joie de vous rencontrer enfin.
Et on parle encore bande dessinée à 6h03 sur France Culture avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et la question du jour est: qu'est-ce que la bêtise humaine et d'où qu'elle vient? Même les plus savants des scientifiques et des philosophes ne savent pas répondre à cette question pourtant très simple. Et si la bêtise n'était ni une fatalité, ni une caractéristique inhérente au genre humain, mais juste un virus? Un vilain virus qu'on chope et qu'on refile depuis des siècles et des siècles. Voilà une hypothèse intéressante. Dans une bande dessinée aussi drôle qu'intelligente, plane l'idée qu'on pourra peut-être un jour cerner les mécanismes de ce vilain virus et se libérer de la bêtise, ne serait-ce que pour mourir moins bête, puisqu'on doit mourir quand même. Tiphaine Rivière nous entraîne dans une drôle de quête dans sa bande dessinée éditée par Le Seuil, qui a pour titre « L'invasion des imbéciles ».
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Tiphaine Rivière.
Bonjour.
Bon, alors, on a vu au cinéma l'invasion des profanateurs de sépultures de Jack Feeney. On a peut-être vu un autre film de série Z que j'aime beaucoup, l'invasion des araignées géantes. Il s'agit de tout à fait autre chose dans l'invasion des imbéciles, hein, même si, il faut le dire, votre bande dessinée Tiphaine Rivière, éditée par Le Seuil, emprunte quelques codes au film fantastique, avec des extraterrestres et des morts qui n'arrivent plus à être reçus dans l'au-delà, mais ça verse plutôt dans la satire sociale. C'est pour parler de la bêtise humaine d'aujourd'hui, non, que vous avez fait cette bande dessinée?
Oui. Au départ, j'ai fait une thèse sur la bêtise pendant 3 ans, que j'ai abandonnée.
Et à la fin, ce qui m'en ressortait, c'était un certain nombre de types de bêtises auxquelles je repense tout le temps. Soit parce que je les vois chez moi, soit parce que je les vois chez les autres. Et ça permet pas de s'en extraire soi-même, ni de faire quoi que ce soit pour qui que ce soit. Mais juste de le savoir, j'ai l'impression que c'est vraiment important pour avancer, réfléchir à comment on pourrait s'en extraire. Enfin, j'y arrive pas, mais je me disais que ça pourrait être intéressant d'exposer ça aux gens. Les 12 formes de bêtises que moi j'ai trouvées pendant ma thèse.
Et s'il fallait parler de ces formes de bêtises, Tiffany Rivière, parce que c'est tout un continent, les bêtises ou la bêtise humaine.
C'est pour ça que j'avais arrêté la thèse, c'est que c'est un concept qui est très poreux. Et du coup, dès que j'en prenais une, en fait, elle se mélangeait à d'autres. Ça veut dire que comme tout est lié, j'arrivais pas à avancer. Et la différence entre une thèse et la BD, c'est que là, j'ai des personnages. Et du coup, à chaque fois, ils échappent au concept que je raconte. Ça veut dire que Yvonne le Tigre, qui va exposer les 12 formes de bêtises en suivant ces gens, à chaque fois, elle essaye de plaquer une forme de bêtise sur les gens qu'on voit. Mais en fait, les gens sont infiniment plus compliqués que ce qu'elle va en raconter. Et ça permet de garder la complexité de ce que sont les gens, tout en expliquant quels sont ces mécanismes qui bloquent notre manière de penser.
Vous êtes à la base universitaire, vous avez fait des études poussées, mais il faudrait tout de suite préciser que c'était des études de lettres. Parce qu'à un certain moment, on a l'impression que vous abordez la question de la bêtise humaine en tant que scientifique.
De sciences dures, vous voulez dire ?
Ouais. Dans le sens où vous faites planer cette idée qui est le ressort dramatique de cette bande dessinée, c'est le tome 1 qui sort, il va y avoir 3 tomes, l'invasion des imbéciles, que peut-être ce n'est qu'un virus et qu'on peut se débarrasser de ce virus et donc de la bêtise qui est en chacun de nous et de la bêtise humaine qui peut parfois être fatale.
Ça, c'est l'hypothèse que pose l'héroïne pour se sortir d'une situation délicate.
On va parler de cette héroïne de 107 ans, mais à travers l'héroïne, c'est aussi la question que vous êtes posée, Tiffany Rivière, non ?
Pour moi, la bêtise,
tentant,
c'est tout sauf un virus. C'est vraiment pour moi, c'est structurel. On ne peut pas être humain sans avoir ce virus s'il en est un. Parce que, en fait, la bêtise, ce n'est pas le contraire de l'intelligence. Ils utilisent les mêmes manières d'avancer, en fait. Par exemple, un scientifique qui va être obsessionnel de son sujet, on va dire que c'est une manière d'accéder à... c'est une forme d'intelligence, mais c'est exactement la même chose qui va se passer dans la bêtise, qui est la focalisation de l'intelligence sur un unique objet au détriment de tout ce qu'il y a autour. En fait, à chaque fois qu'il y a une forme d'intelligence, il a sa forme de bêtise à coller, et c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et du coup, tout l'intérêt, c'est de comprendre à quel moment ils divergent ou sur quoi. Mais les deux ne sont pas vraiment dissociables, en fait.
Mais rassurez-moi, il y a quand même des gens plus bêtes que d'autres.
Ça dépend
ou moins
sur
bêtes
quel
que d'autres.
Ça dépend sur quel critère. C'est pour ça qu'au départ, je voulais en mettre 12, qui sont que l'intelligence conceptuelle, celle au départ qu'on considère être la bêtise de base, c'est un crétin parce qu'il ne comprend rien. Au départ, on considère qu'il n'y a que cette forme de bêtise qui existe. Et il y a beaucoup de philosophes qui ont commencé à comprendre que la bêtise qui posait problème, c'était pas celle-là. Parce que quand on a cette forme de bêtise, on peut pas agir, en fait. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent pas...
être méchants, voilà.
Ils peuvent être méchants, mais en général, ils n'arrivent pas à aboutir à ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, ça les rend relativement stériles, donc c'est pas dérangeant, en fait.
Inoffensif, ouais.
Le problème, c'est quelqu'un qui a vraiment les moyens de mettre en œuvre ses fins imbéciles. Quelqu'un qui est extrêmement intelligent, mais qui met son intelligence au service de causes imbéciles, va être quelqu'un de particulièrement dangereux. Mmh. C'est pour ça qu'Yvonne le Tigre dit aux extraterrestres que les gens les plus intelligents sont aussi les plus dangereux. C'est que ces gens-là sont contagieux parce que leur cause et leur fin, ils sont capables d'en les mettre en œuvre et de donner envie aux gens de s'associer à eux.
Ceci dit, ça reste quand même une bande dessinée, l'invasion des imbéciles, avec un personnage, une intrigue, un voyage de troisième type. Mais restons sur vos 12 formes de la bêtise ou du virus, puisque là, dans votre bande dessinée, ça prend le visage d'un virus, l'hypothèse que ça pourrait être juste un virus. Alors, en 12e position, il y a la bêtise collective et l'effet de foule. Oh là là, on est vendredi, veille d'un samedi. On passe tout de suite à la 11e. La peur de l'inconnu pour nous rendre imbécile.
En fait, là, on est en train de parler comme si je pouvais vous les vous les expliquez toutes, mais si j'ai fait précisément une bande dessinée, c'est parce que je suis pas capable de parler comme ça pour expliquer les choses.
Mais je sais que vous avez travaillé très sérieusement là-dessus.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a différentes manières d'exprimer les choses. Et moi, si je me suis écroulée en thèse, c'est parce que ma pensée est confuse quand je l'exprime comme ça. Je sais pas raconter les choses dans leur complexité. Alors qu'en fait, quand je le fais en dessin et que je peux avoir des métaphores, des personnages, je sais que je peux beaucoup plus facilement arriver à dire des choses qui sont difficiles à exprimer. Si je vous dis la peur de l'inconnu, c'est un concept que Robert Musil a exprimé. Si je vous l'explique, là, vous allez être déçus parce que si je suis à la radio et que vous me demandez de l'exprimer, je vais m'embrouiller dans mes mots.
Et quand ça passe par la bande dessinée, c'est-à-dire une histoire imaginée, du dessin.
Là, en fait, pour moi, c'est beaucoup plus intuitif de reprendre la pensée de quelqu'un et de l'expliquer de façon plus simple et plus accessible, mais en gardant des choses poreuses qui font que il y a des choses qu'on peut ressentir sans être capable de les exprimer, mais ça n'empêche pas qu'on les a comprises à ce moment-là, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Attendez. Oui, je crois. La futilité fait partie des 12 formes de la bêtise pour vous, Tiffane Rivière.
Oui. En fait, c'est pour Deleuze que ça fait partie des 12 formes
absolument,
de la bêtise.
Absolument, que vous citez. D'ailleurs, oui. Vous citez d'autres philosophes. Vous êtes d'accord avec lui?
Je trouve que la façon qu'il a de le dire est très juste. C'est que ce qu'il dit, c'est il y a pire que de pas savoir résoudre un problème. Il est de se poser un faux problème. En deçà de l'erreur, il y a tous ceux qui se posent des questions qui ne posent pas réellement problème.
Alors, pour réfléchir sur ces questions philosophiques complexes, vous avez décidé de passer par une bande dessinée et surtout par un personnage incroyable, cette vieille Yvonne de 107 ans. On ne sait pas si, au début de cette bande dessinée, elle meurt ou pas. D'ailleurs, la mort est un concept assez étonnant dans votre univers, Tiffane Rivière. Ce n'est pas donné à tout le monde de mourir et d'aller à l'au-delà. Encore faut-il faire ses preuves, si j'ai bien compris.
C'est parce que, avant de mourir, ma grand-mère était très angoissée alors qu'elle était très chrétienne. Et du coup, on s'est demandé si elle avait peur de se retrouver en face de Krishna ou quelqu'un qui n'était pas du tout sa culture. Et ça m'avait donné cette idée de quelqu'un qui meurt et qui se retrouve dans un univers totalement inattendu où il a aucun code pour réagir. Et
c'est très drôle le moment où on dit mon Dieu pourvu que j'ai prié le bon Dieu pendant pendant toute ma vie, ma longue vie d'ailleurs, 107 ans. Et ça se passe en Bretagne.
Et ça se passe en Bretagne.
Vous êtes donc bretonne, Tiffane Rivière.
Oui.
Je sais pas comment ils vont le réagir.
Ah, c'est juste parce que j'avais envie de dessiner la Bretagne.
Ouais, d'accord.
C'est vraiment un endroit prétexte. Plutôt que...
C'est pas des règlements de compte avec...
C'est pas des règlements de compte.
Avec le maire d'une petite ville, non. Avec... Bon, d'accord.
Et alors, en plus, le sujet, il est glissant parce que j'ai l'impression que quand on parle de la bêtise, on peut vite donner l'impression qu'on se place au-dessus des gens ou qu'on va dire qui est idiot ou pas. Et en fait, là, c'est pas du tout le propos, déjà, parce que je pense que tout le monde a la plupart de ses formes de bêtises, mais aussi parce que j'ai fait en sorte, et je pense que c'est comme ça dans la vie aussi, que les gens soient le plus attachants possible, qu'on se dise pas c'est un crétin simplement, mais qu'on aime bien ses projets, qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qu'il fait, qu'on rit avec lui et pas seulement de lui en fait.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
L'imbécile de bonne souche mesure 6 pieds de hauteur. Il peut exprimer par la bouche le plaisir comme la douleur. Il peut exprimer par la bouche le plaisir comme la douleur. N'ayant ni plume ni pelage contre la froidure et le vent, il couvre son corps de lainage qu'il appelle des vêtements. Il couvre son corps de lainage qu'il appelle des vêtements. Selon de très anciens grimoires, la peste en a tué beaucoup. Il se reproduit sans histoire de la même façon que nous. Il se reproduit sans histoire de la même façon que nous. Il existe des imbéciles de toutes sortes, évidemment. On en rencontre dans les villes, à la campagne également. On en rencontre dans les villes, à la campagne également. Dieu vous préserve de sa rage, si vous le blessez par hasard. Il est terrible quand il charge, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Il est terrible quand il charge, n'attendez pas qu'il soit trop tard. car à l'encontre des panthères dont ils ont la férocité, les imbéciles sur la terre vont et viennent en liberté. Les imbéciles sur la terre vont et viennent en liberté. Les imbéciles ont des femmes et leurs femmes ont des amants, ce qui provoque bien des drames comme chez l'homme exactement. Ce qui provoque bien des drames comme chez l'homme exactement. Il en est qui font des affaires et qui se déchirent entre eux. D'autres qui rêvent solitaires, ce sont les imbéciles heureux. D'autres qui rêvent solitaires, la 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 la. Que chacun de vous se rassure, car si ce monstre fut légion, je vous dois la vérité pure, il n'y en a plus dans la région. Je vous dois la vérité pure, il n'y en a plus dans la région.
Elle a raison, Juliette Gréco, Tiffany Rivière, on vit l'invasion des imbéciles, pour reprendre le titre de votre bande dessinée, éditée au Seuil. Bien entendu, c'est une farce, c'est une enquête philosophique. Pour le côté sérieux, c'est une vraie enquête quand même philosophique sur les ressorts de la bêtise. Mais vous l'humanisez, cette bêtise. Hein. Vous culpabilisez personne, vous n'êtes pas là pour distribuer des bons et des mauvais points. Il faut faire avec. C'est ça?
C'est ça.
C'est ça la conclusion de ce premier tome sur trois?
J'ai beaucoup hésité, mais finalement j'ai fait en sorte que l'héroïne assume la deuxième forme de bêtise comme les autres, pour montrer qu'en fait la bêtise c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être aussi ce qui fait la vie, ce qui fait que quelqu'un est attachant, ce qui fait que quelqu'un est truculent, exubérant.
Oui, mais sauf que voilà, un exemple. Les bêtises de Sabine Paturel n'ont rien à voir avec les bêtises de Donald Trump, quoi.
Évidemment. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup influencé, c'est Belle du Seigneur de Albert Cohen. Parce que, en fait, ce qu'il fait dans le livre, c'est qu'il raconte la bêtise de Adrien Deume, qui est un fonctionnaire qu'on suit dans sa vie personnelle et au travail, etc. Et en fait, il y a plein de situations dans lesquelles ce qu'il fait, c'est juste drôle parce que ça touche rien. En fait, c'est pas problématique qu'il soit comme ça. C'est juste un peu ridicule pour lui socialement parce que il va essayer de séduire des gens avec qui ça va pas avoir d'impact, etc.
Comme dans votre bande dessinée.
Dans ma bande dessinée, ouais, c'est vraiment mon livre préféré. Et en fait, en parallèle, on voit que la même forme de bêtise qui fait que chez Adrien Deume, c'est pas vraiment un problème, devient extrêmement grave parce que ça se passe en 36, Belle du Seigneur. Et qu'en plus, il bosse à la SDN. Et du coup, on commence à comprendre que certains fonctionnements qu'il a, qui nous font juste rire quand il s'agit de bêtises sociales, devient extrêmement dangereuse et
criminelle.
Et en fait, chaque forme de bêtise, et moi, c'est là que je veux en venir, c'est que chaque forme de bêtise, elle peut être vue d'abord dans un contexte comme celui-là qui va être juste drôle parce que c'est dans la sphère privée, etc. Si jamais tout d'un coup, on la déplace dans la sphère publique et si jamais on en met plusieurs en même temps, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que j'aimerais bien explorer dans les tomes d'après.
Alors nous, on voudrait en savoir un peu plus sur vous, Tiffany Rivière, parce que L'invasion des imbéciles est votre deuxième bande dessinée. Vous avez sorti il y a quelques années un premier roman graphique à succès d'ailleurs, qui s'appelait Carnet de thèse, où vous expliquiez comment vous qui étiez promu à une carrière universitaire, vous avez tout laissé tomber pour vous consacrer à la bande dessinée. Enfin, tout laisser tomber, peut-être que c'est exagéré.
Enfin, en thèse, on apprend à comprendre comment les écrivains écrivent, en fait. Quel est leur style, comment ils créent l'identification ou pas. Enfin, plein de choses assez techniques aussi. Et du coup, j'y repense tout le temps, parce que c'est ça qui me permet d'écrire des scénarios en essayant de trouver des formes différentes. Mais j'ai tout arrêté parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas douée pour expliquer quelque chose comme un universitaire. Et du coup, dans cet univers, quand on est comme ça, il n'y a pas beaucoup de place et c'est normal. Et un jour, j'ai commencé à faire des bandes dessinées pour un anniversaire. Et j'ai tellement aimé que pendant un mois, en fait, j'ai fait que ça.
Alors qu'on n'avait jamais fait de dessin.
Comme un pied, vraiment. Enfin, j'avais arrêté à 15 ans, quoi. À 14 ans, comme tout le monde. Et en fait, ça m'a tellement plu que ça m'a vraiment marqué que ce soit la première fois depuis des années et des années que j'étais très vivante. En fait, la nuit, je me réveillais pour résoudre les problèmes. Du coup, j'ai arrêté la thèse pour faire ça, au grand désespoir de mes proches, parce qu'ils se disaient, après 3 ans de thèse, à un moment, faut pas se lancer dans le dessin sans savoir dessiner, etc. Mais finalement, J'ai l'impression que quand c'est sa manière de penser, de fonctionner, les choses se passent beaucoup plus vite. Du coup, j'ai l'impression d'avoir réussi à apprendre à dessiner vite parce que j'avais vraiment envie de le faire et que du coup, c'était pas comme la thèse où j'étais à la bibliothèque et après je rentrais chez moi et j'oubliais complètement ce que j'étais en train de faire. C'est un truc que je pouvais faire tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Mais la bande dessinée, c'est pas seulement dessiner, c'est avoir une histoire, réfléchir à un découpage, créer des décors, soigner une dramaturgie. Et tout ça, vous l'avez appris toute seule derrière un écran d'ordinateur, Tiffaine Rivière?
Une grande partie, ça vient de la thèse parce qu'on peut transposer ce qu'on a appris sur les romans au scénario. Si je me dis je vais faire un passage où j'essaye de prendre le style de Proust mais de le mettre en dessin, bah ça me permet d'explorer des choses. Si je me dis je vais faire Albert Cohen mais le style adapté, ça me permet d'explorer des choses. Et après pour tout ce qui est technique, c'est plus que j'ai recopié des tonnes de BD mais en bonhomme bâton pour voir comment il faisait.
Quel genre de bande dessinée?
Johann Sfar beaucoup parce qu'il fait plein de plans différents.
Et on la remarque un peu l'influence de Johann Sfar.
C'est vrai.
Ouais. Ce qui peut être qu'un compliment.
Ah oui, je suis très contente. Bon.
Mais j'ai appris que c'était, en passant par un autre auteur de bande dessinée révélé par son blog, Boulet, que vous êtes passé de l'auteur de bande dessinée chez elle à une auteure qui veut partager ses idées, ses dessins, ses histoires. Comment ça s'est passé?
Non, en fait, lui, c'est juste que je lui ai envoyé un mail pour lui demander s'il pouvait me faire des retours sur carnet de thèse, mais j'avais déjà le contrat. En fait, j'ai fait un blog et mon éditeur est tombé dessus. Et du coup, il m'a proposé de faire la BD. Mais c'était plus un peu comme un travail.
Faut dire que votre blog a eu un certain succès.
Dans les milieux universitaires, il y avait des gens qui le lisaient. Oui.
Et puis ensuite?
Ensuite, du coup, il m'a proposé de faire ça. Il avait invité tous les gens qui faisaient des blogs sur la thèse. Du coup, je suis allée le voir. Et comme moi, je voulais vraiment faire de la bande dessinée, alors que les autres étaient des universitaires, je lui ai dit, moi, je veux vraiment, 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 vraiment le faire. Et du coup, il m'a donné le contrat. Mais ensuite, ça doit passer par plein de strates de comités de lecture, etc. Et il se trouve que tout le monde avait fait une thèse, en fait. Même le directeur commercial du Seuil avait fait une thèse. Et du coup, elle est passée là-bas, alors que sinon, avec ce sujet, apparemment, personne n'aurait voulu la publier.
Vous dessinez avec la palette graphique, je suppose?
Oui.
Directement?
Directement. Mmh. Parce que, bon, déjà, ça permet d'effacer autant qu'on veut. Mais surtout, comme ça prend beaucoup de temps de faire de la BD, enfin de faire une BD avec autant de pages, etc. En fait, il y a des moments où je peux prendre des photos d'un endroit, même de mon salon, celui de mes parents, ma grand-mère, n'importe qui.
Ou de votre bled en Bretagne.
Mon bled en Bretagne. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide de dessiner quand on a une photo à côté ou en dessous du dessin. Ça fait que je peux faire un plan vu d'en haut et dessiner au-dessus avec mon style. Mais du coup, la perspective va être parfaite. Ça fait qu'avec ces moyens-là, en fait, quand on dessine un peu sur le tard, à partir du moment où on sait placer les personnages dans un décor, finalement, on pourrait prendre plein de photos et redessiner par-dessus.
Et pour les personnages, vous avez des modèles? Par exemple, pour prendre Yvonne, cette héroïne si particulière de 107 ans, ou le maire du petit village qui nous rappelle un ancien président de la République. Vous avez des modèles ou c'est...
Non,
tout est le fruit de mon imagination.
Non, vous parlez de leur personnalité?
Leur physique, oui, leur caractéristique.
Bon, physiquement, pas plus que ça. Enfin, elle, en tout cas, c'est juste qu'on m'a dit, il faut que ton héroïne, même schématisée, on se dise, ah, c'est Yvonne le Tigre. Et du coup, je lui ai fait des lunettes un peu spéciales avec un petit nœud dans les cheveux rouges, qui fait que même un enfant qui la dessinerait, en fait, ce serait tout de suite clair pour tout le monde que c'est elle. Voilà, c'était ça le... Mais après, physiquement, je sais pas. Ensuite, pour les personnalités, je trouve qu'il y a pas mal de vieilles dames qui ont la sienne, qui ont vécu plein de choses, qui sont revenues de tout, et du coup, qui ont l'air d'être une force immense dans un corps tout pourri, en fait, qui est en train d'avancer leur carcasse malgré tout. En
Et
fait.
Vous le représentez très bien, ça, Tiffaine Rivière. Mais il y a aussi, j'ai pas envie de dire tout ce qui est surprenant dans votre bande dessinée, mais on peut parler d'extraterrestre. Allez, on va appeler ça, c'est un terme générique. Il y a aussi une manière très spéciale pour vous de représenter ces êtres qui ne sont pas des êtres comme nous.
Oui, en fait, je voulais que ce soit des personnages qui ressemblent, qui soient pas complètement anthropomorphiques au départ. Mmh. Du coup, j'en ai fait où on pouvait même pas voir s'ils avaient des yeux, etc. Et je l'ai fait lire à des gens autour de moi. Et du coup, ils accrochaient pas avec. Donc, je suis revenue un peu en arrière et j'ai rajouté des choses dont on peut penser que c'est des yeux, on peut penser que c'est une bouche. Et tout. Et en fait, je les ai retravaillés au fur et à mesure jusqu'à ce que je me dise, quand je les vois, ils me font rire physiquement. Et du coup, maintenant, je suis assez contente de leur tête, mais ça a pris du temps. Avant, ils ressemblaient vraiment à rien. Et plus je les dessine, plus dans ma tête, leur univers se dessine aussi, parce que maintenant, j'ai envie de les faire exister, j'ai envie de les faire venir, j'ai envie de créer... Enfin, à chaque fois, en fait, quand je suis une hypothèse dans le scénario, je réalise que ça peut en ouvrir d'autres. Et du coup, c'est difficile de sélectionner, quand on crée un monde, tout ce que ça ouvre. Et,
comme possibilité,
ouais. Ouais. Ce que j'aime bien savoir quand les gens ils l'ont lu, c'est plus d'extraterrestres ou moins d'extraterrestres, par exemple, ce genre de questions. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont être ennuyés de leur présence en disant « nous, on veut voir les vrais humains, on veut se voir nous, en fait ». Et d'autres qui aiment bien justement les passages plus absurdes où c'est les extraterrestres qui vont avoir une vision extérieure du monde des humains, que moi j'aime bien présenter, mais voilà, je sais pas trop... Comment mixer ?
Et aujourd'hui, Tiffaine Rivière, toujours pas de regret d'avoir laissé tomber votre carrière universitaire pour vous lancer dans l'aventure, parce qu'on peut parler d'aventure.
Hein. Moi, j'avais aucune chance en fait à l'université. Du coup, c'est au-delà du regret, c'est que c'était pas un vrai choix. J'ai échoué là-bas par manque de capacité à savoir ce que je voulais faire ou à me lancer dans la vie active. Du coup, je suis juste désolée de l'avoir pris autant de temps.
Et comment vous accueille la communauté des dessinateurs professionnels de la bande dessinée ?
C'est une communauté qui est très, très bienveillante. C'est plus
vis-à-vis parfois... des gens qui n'ont pas fait les mêmes écoles, c'est ça ? Qui viennent d'ailleurs, comme vous, Tiffaine Rivière ?
Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils parlent pas vraiment du travail des autres. C'est plus festif parce qu'on se voit dans les festivals ou les rencontres. Du coup, c'est plus, on passe du temps ensemble, on parle de comment on fait de la BD, mais il n'y a pas vraiment de gens qui vont me dire ton dessin est ridicule, etc. Alors que sur Internet, quand j'ai sorti Carnet de thèse, parce que les gens pensaient que c'était moi l'héroïne en plus, ils me parlaient de façon très intime, c'était bizarre, où ils disaient « reviens quand tu auras appris à dessiner, mais de toute façon je pense que ça n'arrivera jamais, tu sais, tu ne sauras jamais tenir un crayon, etc. » Ou des trucs vraiment personnels comme... c'est tellement mou ta personnalité, franchement, mais quand on voit que t'es incapable d'agir, ça fait pitié.
Je suppose que le succès de Marion Montaigne vous a rassuré.
Pourquoi elle a eu ça aussi ?
Ouais, non,
mais non, sur le dessin, mais Marion Montaigne, elle a fait les Gobelins, c'est une bombe du dessin. Moi, je donne tout ce que j'ai là, alors qu'elle, elle peut faire des dessins et des peintures exceptionnelles, et c'est elle qui décide de faire ce style. Donc on n'est pas vraiment dans la même situation.
Vous avez parlé de festival, vous allez à Angoulême la semaine prochaine ?
Oui.
Nous y serons toute la semaine prochaine. Le réveil culturel sonnera à Angoulême à l'occasion donc du Festival international de la bande dessinée. On évoquera dès lundi ciné, ses mémoires réunies dans un très beau coffret avec deux gros volumes, une très très jolie édition de Frédéric Pajac des Cahiers dessinés. Mardi, on parlera des années Futuropolis avec Étienne Robial et Florence Sestac pour marquer l'ouverture de l'expo au musée de la bande dessinée d'Angoulême autour de cette incroyable aventure éditoriale. Le mercredi, cinéma sera consacré au grand Miyazaki. Le jeudi, on verra comment des dessinateurs tentent de faire entendre de la musique à travers leurs dessins. Et vendredi, à l'ombre de Batman, qui aura droit à une grande expo à Angoulême, on ira à la recherche des super-héros d'aujourd'hui. Qui sont-ils ? Où se cachent-ils ? Hommes ou femmes ? Voilà. Et si vous ne vous réveillez pas tous les jours à 6h du matin pour nous écouter à la radio, l'abonnement au podcast du Réveil culturel est vivement recommandé en passant par iTunes, franceculture.fr ou l'application podcast de Radio France, par exemple. C'est gratuit et ça peut se faire en quelques clics. Merci, Tiffaine Rivière, d'être passée.
Merci à vous.
L'invasion des imbéciles est éditée par Le Seuil. À la réalisation, Vincent Abouchard. À la coordination, Corinne Amar. Ce matin, la prise de son est assurée par Jean-Michel Bernaud. Bonne matinée.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque samedi à 12h45, ayons de la suite dans les idées.
Sylvain Bourmont.
Dans leur variété et leur complémentarité, l'ensemble des sciences sociales offre plus que jamais des clés pour comprendre le monde. Chaque samedi, la suite dans les idées donne l'occasion de découvrir le travail d'une ou d'un chercheur, mais aussi de le confronter à un autre mode de connaissance, amorçant le dialogue avec un ou une artiste, écrivain ou journaliste.
Il semble appartenir au monde biomédical, pourtant le regard des autres, la loi, l'action des institutions façonnent le handicap. Où commence le handicap, aux yeux de qui ? Avec Romuald Baudin, sociologue, Anne-Sara Kertudo, juriste malvoyante et malentendante. Ce samedi à 12h45 et sur franceculture.fr. Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps ? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
Elle a bouleversé la connaissance de nos origines. Cette semaine, à la une, la grotte de Lascaux, autrement. L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La France se prépare à un Brexit dur, sans accord. Quand Londres n'arrive toujours pas à se mettre d'accord, nous irons à la City, à Londres justement, où se concentrent les financiers pour entendre leurs préoccupations. Nous interrogerons ensuite un responsable de France Stratégie après son étude sur les dépenses publiques dans le pays. Lors du grand débat national, Emmanuel Macron a émis l'idée de baisser ses dépenses. Il sera dans le Lot aujourd'hui. Dans cette édition encore, Jacques Toubon expliquera pourquoi il demande en tant que défenseur des droits à l'État de suspendre l'utilisation des lanceurs de balles de défense dans les manifestations. Et puis nous irons en Colombie, dans la capitale Bogota, où un attentat a fait au moins 21 morts hier, le pire depuis 2003 dans le pays. Le Parlement britannique se prononcera le 29 janvier, dans 11 jours, sur le plan B que doit lui proposer la Première ministre. Theresa May doit le présenter lundi, puis le texte sera débattu avant d'être mis au vote, donc le 29 janvier prochain. Hier, pour rassurer le Parti travailliste, Theresa May a concédé qu'elle ne pouvait pas écarter l'idée d'un Brexit sans accord. De quoi questionner un peu les financiers de la City à Londres, Antoine Gignot.
Ce n'est pour l'instant qu'un petit nuage au-dessus des gratte-ciels de la City. Pas de grosse inquiétude dans les milieux financiers, explique Fabrice Montagnier, pour le chef économiste de la Banque Barclays. Les discours politiques servent avant tout à faire peur aux députés pour les inciter à trouver une position commune sur le Brexit.
Ça fait clairement partie de la stratégie, c'est-à-dire que pour forcer la main, notamment des parlementaires britanniques, il faut qu'on s'approche très très proche de la falaise et du précipice. Nous, on n'y croit pas trop. Probabilité à moins de 10%. Voilà. On ne sait pas grand-chose du Parlement britannique, mais on sait une chose, c'est que les seuls votes pour lesquels il y a eu une majorité ont été les votes contre une sortie désordonnée de l'Union européenne.
Plusieurs élus, conservateurs et travaillistes préparent d'ailleurs ensemble un texte qui interdirait toute sortie de l'Union européenne sans accord commercial. Mais les banques et les fonds d'investissement n'oublient pas pour autant de se préparer au pire. Depuis le référendum, il y a 2 ans et demi, plus de 900 milliards d'euros d'actifs ont été transférés vers le continent, avec des bureaux ouverts à Dublin, à Francfort, à Paris. En cas de Brexit dur et de scénario catastrophe, explique Catherine McGuinness, la responsable de la City of London, près de 12 000 personnes pourraient traverser la Manche.
Et en France, justement, le Parlement préfère, lui, se préparer au pire. Il a voté hier le plan national proposé par le gouvernement français pour faire face au scénario d'une sortie sans accord. Il s'agit notamment de protéger les intérêts des Français résidant au Royaume-Uni, de garantir un statut pour les citoyens britanniques en France et de prévoir les mesures en vue du rétablissement des contrôles de marchandises aux frontières. Quelle stratégie économique maintenant dans le pays, en France, pour calmer la colère, la frustration des gilets jaunes, mais également des élus locaux. Le grand débat national se poursuit politiquement pour Emmanuel Macron. Il sera cet après-midi dans le Lot à Souillac pour rencontrer près de 600 maires d'Occitanie. Les dépenses publiques sont au cœur des discussions, le président ayant fait comprendre qu'il fallait les diminuer.
ou réduire le poids des dépenses publiques, c'est justement le thème d'une note que France Stratégie a rendue publique hier. Cette agence d'évaluation et de stratégie économique a comparé la répartition des dépenses de l'État français avec celle des autres pays européens. Elles sont importantes en France. Fabrice Langlard, commissaire général adjoint de France Stratégie, l'explique.
Pourquoi nos dépenses publiques en France sont si élevées? Ça résulte d'abord de choix collectifs assumés dans la durée. Et ces choix collectifs sont bien souvent des choix collectifs sociaux. Nous avons un système de retraite entièrement public, par répartition, relativement généraux par rapport à nos voisins. Nous avons choisi d'avoir une dépense d'éducation et de santé socialisée. D'autres choix sont assumés et ne sont pas de la sphère sociale. En France, nos dépenses militaires sont plus élevées que nos voisins européens. Mais il demeure des postes de dépenses publiques qui ne résultent pas de choix collectifs assumés. Le surcroît de dépenses publiques liées à nos dépenses d'administration générale est bien connu. Ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'on a également le choix d'utiliser la dépense publique pour soutenir beaucoup l'économie marchande. Et là, nous dépensons un point de plus que nos voisins européens. Des tas de subventions et de transferts divers qui vont aux entreprises et qui sont aujourd'hui un peu la contrepartie du fait que les impôts à la production en France sont également plus élevés que chez nos voisins. En quelque sorte, l'État se comporte comme une pompe aspirante refoulante. Il taxe un peu plus les entreprises, mais il leur reverse beaucoup d'argent aussi. Et puis enfin, au-delà de ces gros efforts à faire sur les dépenses hors sphère sociale, atteindre cet objectif de baisser les dépenses publiques durablement de 3 points, ça réclame aussi des efforts plus modérés sur les dépenses sociales.
Fabrice Langlard de France Stratégie au micro d'Anne Lorchouin. Alexandre Benalla est toujours en garde à vue ce matin. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron est entendu dans le cadre de l'enquête sur l'usage de ses passeports diplomatiques. Une enquête préliminaire a été ouverte pour abus de confiance faux et usage de faux. Gilets jaunes éborgnés, mâchoires fracassées, coma, les informations faisant état de blessés graves lors des dernières manifestations se multiplient. Les victimes souvent ont été touchées par des tirs des LBD, les lanceurs de balles de défense. Le défenseur des droits a donc été saisi, il a reçu 25 réclamations depuis le début du mouvement et déjà, il demande la suspension du recours au LBD, cette arme d'épaule qui projette des balles de caoutchouc de 40 mm de diamètre. Jacques Toubon appelle donc le gouvernement à prévenir plutôt que soigner. Il s'explique au micro d'Audrey Dumas.
Les conditions dans lesquelles sont utilisées ces armes de force intermédiaire pendant les manifestations créent incontestablement un risque disproportionné pour les personnes qui manifestent ou pour celles qui sont autour des personnes qui manifestent. Nous avons fait des recommandations. Ce que je souhaiterais, c'est qu'elles soient prises en considération. Et nous avons donc demandé, en ce qui concerne le Flashball Super Pro, un moratoire. Nous l'avons demandé il y a 2 ans. Il faut arrêter de l'utiliser pendant les manifestations. Et deuxièmement, nous avons dit, en ce qui concerne le lanceur de balles de défense, il faut aujourd'hui reconsidérer son usage, voir comment on l'emploie. Je crois que la prudence devant les dommages que l'on constate serait d'examiner globalement la question de ces armes de force intermédiaire et, comme nous l'avons dit sur le flashball, de faire pour l'instant un moratoire.
Avec plus de communication, notamment entre les forces de l'ordre et les manifestants, voilà ce que propose le défenseur des droits. Le bilan de l'attentat à la voiture piégée qui a eu lieu hier matin à Bogota en Colombie s'est encore alourdi. L'attaque a fait au moins 21 morts, 68 blessés. Les autorités colombiennes soupçonnent l'armée de libération nationale, une petite guérilla marxiste encore active dans le pays. L'explosion a eu lieu dans une école de police dans le sud de la capitale, Marie-Ève de Teuf.
Bogota est sous le choc. La ville n'avait pas connu d'attaque aussi meurtrière depuis 2003. Tous les secteurs politiques ont énergiquement condamné l'attentat, y compris la FARC, le parti politique issu de l'ancienne guérilla des FARC, aujourd'hui démobilisée. L'ONU, Washington et le Venezuela ont eux aussi condamné l'usage de la violence. Les autorités colombiennes sont perplexes, qui se demandent s'il y a eu attentat-suicide. Ce serait une première en Colombie. Jeudi matin, en effet, le véhicule a été repéré par les chiens anti-explosifs alors qu'il tentait de pénétrer dans les installations de l'école de police. Le conducteur a alors passé en force le poste de contrôle et accéléré. La voiture a explosé 200 mètres plus loin. L'identité du conducteur a été établie. Il s'agit d'un homme de 56 ans qui était originaire du département d'Arauca, un fief historique de la guérilla de l'ELN. C'est une des raisons pour lesquelles les autorités privilégient cette piste pour leur enquête. Mais les autres hypothèses ne sont pas complètement écartées. Sur la liste des possibles coupables, on trouve le clan du Golfe, qui est la plus grosse organisation mafieuse du pays. On trouve aussi les déserteurs de l'ancienne guérilla des FARC qui sont restés dans le maquis, ou encore les milices d'extrême droite. Une seule certitude, l'attentat fait le jeu des militaristes et autres partisans de la manière forte.
Marie-Ève Deteuf à Bogota pour France Culture. S'agit-il d'ingérence? En tout cas au Brésil, Jair Bolsonaro et son gouvernement ont promis d'agir pour un changement de régime au Venezuela. Jair Bolsonaro, le président brésilien, l'a dit hier devant des opposants vénézuéliens qui étaient au Brésil en visite, opposant au président socialiste Nicolas Maduro. La paralysie budgétaire aux États-Unis vire au règlement de compte entre Donald Trump et Nancy Pelosi, quitte à perturber le calendrier officiel américain. Le locataire de la Maison-Blanche a ainsi annulé le voyage de la présidente démocrate des représentants, un voyage prévu en Afghanistan. Dans la foulée, Donald Trump a annoncé également que la délégation américaine ne se rendrait pas la semaine prochaine au Forum économique mondial à Davos. Le risque de gel est important ce matin sur la moitié nord de la France, avec des bancs de brouillard assez nombreux, du brouillard givrant. Après toutes ces grisailles matinales, le ciel devrait rester nuageux dans l'ensemble, avec quelques éclaircies plus marquées sur le sud-est. Quelques gouttes de pluie vont arriver par ailleurs par l'Atlantique. Côté température, il ne fera pas plus de 1 degré en région parisienne ce matin et sur le Grand Est, comptez 2 degrés à Nantes et Lyon, 5 à Bordeaux, 8 degrés à Perpignan et à Nice, 10 à Bastia. Il est 6h40, bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, vous êtes d'une ponctualité remarquable.
6h40, très pile. Exactement, merci de le remarquer Jacques. Vous nous rejoignez, vous, pour le journal des idées après le journal de l'actualité. Face à l'expression de la colère revendiquée par les gilets jaunes, les appels à l'empathie se multiplient, Jacques.
Et oui, et c'est ce que relève Isabelle Tisse-Saint-Jean dans un article du site d'information et d'analyse AOC. Le titre de l'article, empathie, bon sentiment et mauvaise politique, de Laurent Berger à Alain Juppé, sans compter les éditorialistes, nombreux sont ceux qui en appellent à cette faculté de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. L'économiste et femme politique s'emploie à en discerner les raisons pour récuser ensuite la valeur politique de cette mode sémantique. Il s'agit d'abord de rectifier l'image d'arrogance renvoyée par le président, mais le phénomène tient aussi à une forme de contagion lexicale venue du monde du management, liée à l'importance reconnue aux compétences émotionnelles, critère déterminant dans l'embauche d'un candidat. Parmi elles, en bonne position, après l'esprit d'équipe, la motivation passion ou l'adaptabilité, vient l'empathie. Les économistes eux-mêmes ont intégré la dimension émotionnelle dans leurs travaux à travers la théorie des jeux ou l'analyse de la décision. Enfin, les neurosciences et les techniques d'imagerie cérébrale ont mis en évidence le fait que lorsqu'un individu perçoit autrui dans une situation douloureuse, cela active chez lui certaines régions impliquées dans le traitement de la douleur physique, ce qui déclencherait une inhibition des comportements agressifs, car la détresse des autres est ressentie comme un stimulus aversif. En évitant les actions qui lui sont associées, l'empathie jouerait, pour certains auteurs, un rôle majeur dans le développement du raisonnement moral. Toutefois, rappelle Isabelle Tisse-Saint-Jean, jusqu'à la Révolution française, le terme d'émotion avait aussi une connotation négative. Il désignait les soulèvements populaires, caractérisés par leur dimension soudaine et de courte durée, leur apparente inorganisation et leur violence. Si l'on pousse l'enquête sur les émotions plus loin, encore dans le temps, on finit par se retrouver aux confins du monde des dieux, et alors les analogies avec la condition humaine leur confèrent une puissante dimension symbolique. Tout comme les anciens Grecs, avec leur panthéon agité de passions explosives, les chrétiens se sont confrontés au récit biblique tonnant des échos de la colère divine. Et à travers la passion du Christ, ils se sont employés à parier les émotions humaines à celles de la divinité, notamment l'amour et l'espérance. C'est l'histoire que raconte Emmanuel Durand, professeur au Collège universitaire dominicain d'Ottawa, dans un livre paru au Cerf sous le titre « Les émotions de Dieu ». Stéphane Briand rencontre sur le site nonfiction.fr en soulignant tout ce que l'incarnation dans la figure de Jésus de Nazareth a apporté à cette problématique identification à la transcendance divine par le truchement des émotions, lesquelles apparaissent ainsi comme le meilleur vecteur de la relation à Dieu Et en retour, la liberté humaine, structurellement marquée par la finitude et la contingence, voit un sens possible de l'existence se dégager pour elle. Les émotions sont sans doute un des moyens mis à la disposition de l'homme pour réduire l'écart entre être et agir, commente Stéphane Briand. On est proche ici de la Saint-Dérèse, cette étincelle de la conscience, selon Jérôme, qui ne s'éteint jamais, telle une flamme divine. Les émotions orienteraient alors l'agir humain dans une perspective d'affiliation divine, parce que les affects sont nécessaires pour mettre la volonté en mouvement. Le titre de l'article « Dieu humain, trop humain » me suggère un détour par Nietzsche, qui nous ramène à l'actualité. Je cite « La colère puise dans l'âme jusqu'à la vider et en tire au jour même les dépôts. Aussi faut-il, si l'on ne sait pas y voir clair autrement, s'arranger pour mettre en colère son entourage, ses partisans et ses adversaires, afin d'apprendre ainsi tout ce qui se trame et se pense contre nous tout au fond. » C'est dans « Humain, trop humain », paragraphe 54, à méditer en ces temps de détresse et de colère. L'un des motifs au sens pictural et esthétique du terme, mais aussi éthique et mystique de la relation à Dieu, c'est ce que la tradition chrétienne a désigné comme le don des larmes. Dans son beau traité des larmes, Catherine Chalier avait puisé à la source hébraïque pour illustrer toute une gamme d'émotions, du désespoir à la joie, de la révolte à la compassion, et des pleurs de Jacob, d'Ésaü ou de Joseph à ceux des prophètes ou du psalmiste, et même, selon la tradition orale du Talmud et du Midrash, les larmes de Dieu. Aujourd'hui, plus prosaïquement, Francis Métivier publie chez Pygmalion « La joie des larmes, une philosophie des pleurs » où il montre que pleurer est la première manifestation d'une émotion et que les mots viennent seulement après. « Au commencement était le Verbe », dit l'évangile de Jean. « Non », rétorquait Céline dans un monologue de 1958. Au commencement, non, au commencement était l'émotion. Le verbe est venu ensuite remplacer l'émotion comme le trot remplace le galop. 6h45, vous écoutez France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Et j'en ai les larmes aux yeux. Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, aujourd'hui, cap sur la Tunisie.
Oui, avec cette grève générale de 24 heures, une manifestation massive du secteur public hier à Tunis. Le syndicat UGTT prend le relais de la protestation qui secoue le pays depuis décembre dernier, après l'immolation d'un journaliste par désespoir. Alors, 8 ans après la révolution, ce sont les mêmes acteurs qui se mobilisent, ou quasiment, pour aller vers où. On voit ça avec vous, Ella Youssefi. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu ce matin. Vous êtes maître de conférence en management et organisation à l'Université Paris-Dauphine, vice-présidente du Cercle des économistes arabes et auteur justement du GTT, une passion tunisienne, enquête sur les syndicalistes en révolution 2011-2014 chez Kartala. Alors pour la manifestation d'hier, c'était plus d'un million de personnes qui étaient appelées, un quart de la population active, le mouvement social le plus massif depuis 2013, revendication salariale et puis surtout les mêmes termes qu'en 2011 qui reviennent, gouvernement dégagé. Alors, Ella Youssefi, ces journées de grève après des jours de manifestation dans plusieurs villes, est-ce qu'on est dans la négociation ou dans l'insurrection ?
Alors, c'est difficile de choisir si on est dans la négociation ou l'insurrection. On est dans une forte mobilisation. Je préfère ce terme-là. Évidemment, comme vous venez de le dire, les causes qui ont amené le soulèvement populaire en 2010 sont toujours là, sont les mêmes, à savoir disparité régionale, un taux important de chômage. Les dysfonctionnements structurels de l'économie tunisienne sont toujours là. Par contre, il y a quand même une évolution, en fait, au niveau des mobilisations. Et notamment le rôle de l'UGTT dans ces mobilisations-là. Les mobilisations de 2010-2011, vous avez l'UGTT qui représente un peu les couches moyennes organisées, hein, je le fais de manière schématique, qui fait une alliance avec les chômeurs et qui soutient les chômeurs dans cette révolte, dans ce soulèvement qui était à l'origine un soulèvement plutôt social et économique. Ensuite, il y a une deuxième période qui est la transition politique ou la transition démocratique. Et là, on a eu un changement de rôle, un changement de positionnement de l'UGTT qui a joué un rôle très important dans le dialogue national et dans la stabilisation du climat politique. Et là, on a un autre temps de ce processus révolutionnaire et qui est intitulé, enfin la grève, et les syndicalistes l'ont intitulé « La souveraineté nationale avant les augmentations salariales. Et là, on est dans une dénonciation claire des injonctions des bailleurs de fonds qui ont fait que les maux de l'économie tunisienne sont toujours là. Et donc la question de la souveraineté nationale est posée de manière frontale. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est de voir la une du journal Sharp, qui est l'organe de l'UGTT, où ils mettent le portrait de Christine Lagarde avec un masque, celui du président du gouvernement, donc c'est de Youssef Chahed. Donc c'est assez intéressant de voir les différents temps mais la question sociale et économique est bien évidemment centrale tout au long de ces 8 ans depuis le déclenchement de la révolution tunisienne.
Mais parce qu'il faut effectivement rappeler que l'UGTT en ce moment manifeste parce qu'elle demande des augmentations salariales, hein, 20 euros 2019 plus 30 euros en 2020, voire peut-être un peu plus, et qu'effectivement il y a ce prêt de 2,4 milliards d'euros du FMI qui soumet à certaines contraintes le gouvernement. Alors à quel point est-ce qu'on est dans la situation de 2011, à quel point est-ce qu'on a une jonction des problématiques entre ces manifestations qui ont démarré après l'immolation du journaliste le 24 décembre, et puis ce combat de l'UGTT qui est sur le plus long terme, en fait, qui a commencé l'année dernière?
Alors, au fait, les mobilisations sociales, il y a l'UGTT qui est un acteur important lorsqu'il s'agit de parler des mobilisations sectorielles et des secteurs qui sont organisés au sein de l'UGTT. Et vous avez parlé aussi de la mobilisation des journalistes. Mais je tiens à préciser qu'il y a d'autres formes de mouvements sociaux qui prennent avec d'autres acteurs, notamment les chômeurs un peu partout dans tous les pays. Et c'est pas uniquement au mois de janvier. Enfin, tout au long de l'année précédente, 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a des mobilisations un peu partout, à Meknesi, à Gasserine, autour des questions régulières, l'emploi et la justice régionale et sociale. La grève des journalistes ou la grève des enseignants de l'enseignement secondaire, c'est une grève qui était gérée par l'UGTT. Mais on a différentes mobilisations et ça n'a pas arrêté depuis 2011, et ça n'a pas arrêté parce que on a obtenu, si vous voulez, les conditions d'une démocratie formelle, hein, à savoir des élections transparentes et plus ou moins une alternance au pouvoir. Mais la cause de la révolution, à savoir les revendications socio-économiques, n'ont pas toujours été traitées. Et là, on pose cette question-là de manière beaucoup plus claire et directe.
Oui. Et avec les mêmes symptômes, vous l'avez dit, c'est toujours ce même triangle, voire un peu plus vaste, Sfax, Gafsa, Sidi Bouzid, qui est touché, qui est en révolte. Est-ce que ça veut dire que, comme vous l'aviez suggéré dans un article de Lorient 21, la décentralisation, vous posez la question, remède miracle aux disparités régionales, que cette décentralisation a été inopérée jusque-là?
Alors, merci pour cette question, parce qu'elle fait la jonction avec les mobilisations syndicales aujourd'hui. Au fait, la décentralisation, c'est aussi une réforme. La revendication, c'était une revendication de justice territoriale, hein. C'est une revendication qui a été associée au moment de soulèvement populaire, et c'est une revendication qui a été pervertie justement par l'une des réformes structurelles imposées par notamment la décentralisation, c'est la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, on a fait une réforme libérale, c'est-à-dire désengagement de l'État et plus d'autonomie financière et administrative aux régions. Sauf que ces régions-là n'ont pas les moyens et financiers et humains pour réaliser cette décentralisation. Donc au niveau politique, on peut espérer une délibération locale et une participation à la fabrique de la décision locale, mais cette décentralisation-là, la décentralisation, comme l'origine du problème, c'est les moyens financiers, ces régions-là n'ont pas les moyens financiers, et si on leur donne un peu plus de pouvoir, ça ne va pas générer du cash par miracle. Donc là, pourquoi je vous dis qu'il y a une articulation à faire avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis le déclenchement de la révolution et le départ de Ben Ali, on a plusieurs réformes imposées par la Banque mondiale, où le titre, la manière dont on vend ça, c'est le soutien, on ne dit pas processus révolutionnaire, on dit le soutien à la transition démocratique, c'est l'expression politiquement plus correcte. Et ces réformes structurelles ont un seul objectif, plus de désengagement de l'État, plus de libéralisme économique, et on veut faire, encore une fois de manière schématique, on n'a pas le temps, on veut faire de la Tunisie un marché libre des marchés et des identités. Donc il y a la décentralisation, il y a ce prêt-là dont vous avez parlé, qui impose une politique d'austérité, telle qu'on la connaît aussi en Europe, hein. Compression de la masse salariale dans le service public pour pouvoir le privatiser plus tard, encouragement du départ à la retraite anticipé, c'est des mesures classiques qu'on retrouve partout, et aujourd'hui on a des Tunisiens un peu partout, dans différents secteurs, pas uniquement au niveau de la JTT, mais dans d'autres secteurs de la société tunisienne, qui sont en train de dire non à ces réformes-là. Il y a aussi une autre réforme largement dénoncée par tout le monde, c'est celle aussi de l'ALECA, donc les accords de libre-échange complet approfondi avec l'Union européenne, qui reprennent les mêmes termes et les mêmes ingrédients qui ont poussé au soulèvement populaire et on entretient globalement le même modèle économique.
Et alors, est-ce que dans ces circonstances, pour parler un peu des remèdes à la situation ou d'une sortie de crise, est-ce qu'on n'a quand même pas un gouvernement tunisien, je dirais presque quel qu'il soit, qui n'est pas un petit peu coincé entre ces injonctions du FMI et puis une croissance économique qu'on dit trop faible, 2,5% pour créer de l'emploi. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit et répondu mercredi dernier là, le Premier ministre Youssef Chahid. On ne peut pas se permettre financièrement des augmentations salariales. Il a même accusé les augmentations salariales d'être responsables de la situation.
Alors, M. Chahid parle de la Tunisie, un pays comme s'il parlait d'une entreprise. Hein. Un pays sans budget et la manière de penser le budget d'un État, c'est pas du tout la même manière qu'on pense le budget d'une entreprise. Donc, normalement, Chahid et ceux qui gouvernent le pays sont élus par une partie, hein, pas tout le peuple tunisien. Et normalement, ils sont censés pouvoir décider de manière à répondre d'abord aux attentes locales des populations. Donc, évidemment, pour moi, le responsable actuel de la situation, c'est l'élite politique locale et économique, hein, l'élite politique et économique qui gouverne le pays, qui n'a pas trouvé, ou qui ne veut pas aussi trouver peut-être, sans faire de procès d'intention, une stratégie claire, parce que là, quand il dit « Ah, on peut pas faire de l'augmentation salariale », alors qu'est-ce que vous proposez concrètement pour relancer l'économie ? Il est en train de gérer, voilà. Donc, on ne comprend pas la logique, il n'y a pas de vision stratégique, et on ne sait pas où est-ce qu'il veut. Ok, on ne fait pas d'augmentation salariale, mais vous faites quoi pour relancer l'économie ? Il n'y a rien. Alors, ça devient un prétexte maintenant en disant les injonctions des bailleurs de fonds. On a aussi un peu partout aussi des exemples de pays qui ont dit non aux bailleurs de fonds et ils ont géré leur pays de manière souveraine. Donc je pense qu'on a, quand on est au gouvernement, on n'est pas coincé, c'est des choix. Le gouvernement Chahid a choisi de se conformer aux injonctions des bailleurs de fonds, c'est pas une tension, alors qu'il a été élu, enfin en tout cas les Tunisiens s'attendent à ce qu'il mène une politique qui nous émancipe et économiquement et politiquement des bailleurs de fonds.
Et toute la différence entre gérer et gouverner. Merci beaucoup Ella Youssefi pour aujourd'hui. On renverra à votre livre et évidemment UGTT, une passion tunisienne, enquête sur les syndicalistes en révolution 2011-2014. C'était et aux éditions Cartala. Merci et bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et le cinéma Majestic Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Rendez-vous mardi 22 janvier à 20h avec Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi. Une comédie dramatique avec Pierre Arditi, Noémie Lovski et Yolande Moreau.
Il raconte ton papa.
Il viendra pas, il a une nouvelle fiancée.
Anna arrive avec sa fille sur la Côte d'Azur pour les vacances. Au milieu de sa famille, des amis et des employés, elle doit gérer sa rupture et l'écriture de son prochain film.
Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison. Personne ne voit personne.
Projection en avant-première, suivie d'un débat avec la réalisatrice animée par Antoine Guillot, en partenariat avec Combini. Plus d'infos et réservations sur le site lesecransdeparis.fr.
Et à 6h57, ou presque, sur France presque, Culture.
Presque. Ne brûlez pas les étapes, Xavier Martinez. D'abord, bonjour.
Bonjour, Guillaume Merner. Ça va, et vous?
Bah, écoutez, parfaitement. C'est vendredi, comme vient de le rappeler Jacques Munier.
Voilà, bah, vous allez commencer les matins du vendredi, et vous allez commencer avec quelque chose qui ressemble avec un poème. Nous connaissions des divorces de toutes sortes.
Eh oui, vous savez, Xavier, il y avait des divorces discrets, d'autres sanglants, des divorces grand déballage, des divorces mis en examen. Je ne vous avais jamais dit que mon mari avait un compte en Suisse. Eh bien, voici le premier divorce boursier de l'histoire. Monsieur et Madame Bezos divorce. Alors, c'est probablement un détail pour vous, mais si je vous dis qu'il s'agit de Monsieur et Madame Amazon, cela changera d'ores et déjà de signification. Voici donc, Xavier, le premier divorce à 137 milliards de dollars, avec une question, comment les diviser en deux, puisque Monsieur et Madame ont fondé l'entreprise ensemble. Alors, diviser 137 par deux, c'est pas très compliqué. Hein. À partir du cours élémentaire, on sait faire diviser le pouvoir par deux. Depuis Rockefeller et Machiavel, on sait que c'est beaucoup plus compliqué, car depuis son origine, le couple Bezos se pense sur le mode d'une histoire d'art, une histoire d'argent. Selon Paris Match, monsieur cherchait à l'origine, je cite, alors il cherchait une femme pleine de ressources, avec des seuils à ne pas dépasser, ça j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, mais c'est toujours dans Paris Match, capable, je cite toujours, de le faire sortir d'une prison du tiers-monde. L'histoire officielle de Monsieur et Madame Amazon nous raconte Match est une histoire d'A et pas du tout une histoire d'O. Ce couple n'est pas un couple, d'ailleurs c'est un GIE, un groupement d'intérêts économiques, un GIE intégré dans la communication d'Amazon, Monsieur Amazon devenant un family man, un père de famille exemplaire, comme il y a des family office. Family office, c'est une entreprise familiale. Madame devenant le premier actionnaire de la firme et son premier agent de communication. Oui, mais voilà, la liaison de Monsieur avec une ancienne présentatrice de télévision a, semble-t-il, torpillé ce plan de communication. Le business plan de Monsieur Madame a été éventé donc par la curiosité d'un tableau, lequel a pressenti l'existence d'une liaison au fond de ce tableur Excel. Monsieur Bezos, confondu par ses données personnelles, c'est un peu un comble pour quelqu'un qui ne cesse d'utiliser nos données personnelles. Monsieur et Madame Amazon incarnaient les premiers en tout, première capitalisation en bourse, première résidence privée à Washington. Depuis l'annonce de cette liaison, eh bien l'action Amazon dégringole à Wall Street. Et c'est ça la nouveauté, c'est l'apparition du premier divorce coté en bourse.